J'ai toujours eu le sentiment d'être né dans le mauvais corps, en quelque sorte. Et j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez moi. Je pensais que j'étais transgenre, que j'avais besoin d'entamer une transition pour, vous savez, être heureux et me sentir vivant.
En Europe, de plus en plus d'adolescents souffriraient de dysphorie de genre, un sentiment d'inadéquation entre son sexe de naissance et celui auquel on s'identifie. Face à ce phénomène, parents, médecins et psychiatres sont partagés sur les méthodes à suivre pour accompagner au mieux ces enfants souvent en grande souffrance psychologique. Faut-il aller vite, quitte à empêcher la puberté par la prise de médicaments, ou au contraire faire preuve de plus de prudence pour éviter tout regret?
Avant, il s'agissait d'un phénomène très rare. Nous avions un, deux, peut-être trois enfants par an qui demandaient des soins pour une dysphorie de genre en Suède. Mais quelque chose s'est produit autour de 2010. J'ai calculé que l'augmentation était de 2300% ou quelque chose comme ça.
En Suède, l'un des premiers pays à avoir autorisé le changement de sexe en 1972, on s'interroge sur la nécessité d'avoir désormais un encadrement plus strict pour les mineurs qui souhaitent faire leur transition. En France, l'Académie de médecine a, elle, récemment appelé à faire preuve de la plus grande prudence. Les associations dénoncent une régression des droits obtenus de longue lutte et un abandon à leur souffrance des enfants et adolescents concernés.
À 9 ans, je me souviens d'une fois où il a beaucoup pleuré. Il m'a dit « Maman, tu te rends compte, je vais devoir attendre mes 18 ans pour être ce que je suis. » Il me dit « 8 ans, c'est long quand même. » Et je me suis dit « Mais moi, mon gamin, il va se foutre en l'air. »
Selon la communauté scientifique, environ 1% de la population française serait concernée par la transidentité. Un chemin difficile que connaît bien le docteur Jean Chambry. Ce pédopsychiatre du groupe hospitalier universitaire de Paris accompagne ses patients dans leur changement de sexe. Ce jour-là, il reçoit en consultation un garçon de 17 ans qui a commencé sa transition 3 ans plus tôt. Tous deux ont exceptionnellement accepté la présence de Julie Pietri, Jérémy Thuil et Frédéric Kérou, qui signent ce reportage « Né dans le mauvais corps, la délicate prise en charge des ados trans ».
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Vraiment une entrée hyper discrète. Il n'y a rien du tout. Alors.
Porte ouverte.
Bonjour. Je vous fais patienter, j'ai pris un retard. Je suis vraiment désolée.
Je vous en prie.
Voilà, mais j'arrive tout de suite.
Ok.
Vous vous êtes présenté du coup ?
Oui, on s'est présenté.
Super.
J'ai cru en fait que c'était les parents de la personne d'homme. En fait.
Ah. Je vous ai dit, ah là, il a vraiment beaucoup de retard aujourd'hui. Alors comment ça va ?
Ça va, ouais. Non, bah fatigué. Surtout là, je suis en plein partiel. Ouais, fatigué.
Vous avez l'air. Donc, très fatigué, trop de travail.
Ouais. Là, j'avais mes examens et du coup, j'ai demandé à mes psys si c'était bien ou pas de faire un régime ou un truc comme ça parce que bah, j'avais pris énormément de poids puisque je travaille beaucoup et que je mange pour me calmer. Et en fait, elles m'ont dit non, faut surtout pas faire ça. Là, t'es trop dans une période de stress et... Bah, ça me stresse encore plus parce que du coup, je vois que mes cuisses elles sont grosses, que j'ai un gros cul, que je suis... Enfin, je vois tout de féminin en fait chez moi.
Mais comme on disait la dernière fois, c'est vous qui interprétez sous cet angle parce que finalement, quand on vous voit, on voit plutôt un garçon comme ça spontanément.
Ouais. Enfin, bref, forcément, il y a des moments. Sous la douche, c'est horrible de voir ça. Quand je m'habille, c'est horrible. Et là, bon, l'hystérectomie, il n'y aura rien de plus. Mais au moins, je ne me dirais pas, ah, ça se trouve, j'aurais peut-être mes règles. Parce que des fois, ça revient, c'est horrible.
Vous avez peur d'avoir vos règles.
Ouais. De toute façon, depuis qu'on s'est vu, ça s'est vachement dégradé mon état.
Depuis le mois de septembre.
Depuis septembre.
Déjà, ça n'est pas très fort en septembre.
Ouais, ouais. Bah, du coup, on a augmenté les doses des antidépresseurs. Je commençais clairement à avoir des pulsions suicidaires, des trucs comme ça. Donc, je me sens pas bien nulle part, en fait. Donc, je sais pas, en fait. La transition. Ça m'a tellement aidé, mais là je suis à un point mort, je fais que attendre. Et pareil, dans les gens que je rencontre, bah, forcément il y a des filles qui me plaisent, tout ça. Et à chaque fois je me dis, bah, elle doit se dire que trans, bah, c'est des monstres ou je sais pas quoi. Ah, parce que. Enfin, en tout cas, être ami, ok, mais je serais le pote gay. Qui n'est pas gay, mais qui est trans, donc c'est, c'est le pote ouvert, mais voilà.
Ben, c'est toujours une aventure, la rencontre. Hein. Il y a des risques à prendre, etc. Encore une fois, hein, ce que j'ai comme retour, c'est quand même pas mal, beaucoup d'hommes trans qui ont construit des relations avec des filles qui se décrivaient comme des filles hétérosexuelles et qui sont tombées amoureux de cet homme. Et que la découverte de la transidentité n'a pas remis en cause la qualité de leur relation, voire même parfois renforcé la qualité de cette relation. Mais on voit bien que, voilà, il y a tellement d'insécurité en vous. Évidemment, la rencontre avec l'autre, elle est compliquée, dangereuse. Mais ça, je pense que c'est des choses qui vont s'améliorer.
Oui,
bien sûr.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez dans une phase de pause ou d'attente. Ça veut dire quoi?
Enfin, en fait, j'attends juste mes 18 ans. Et là, c'est là où je vais pouvoir enfin changer ma carte d'identité, faire l'hystérectomie, donc ça veut dire enlever l'utérus, tout ça. Et là, du coup, avec refermeture vaginale en plus. Et ensuite, l'année encore d'après, je pourrais enfin entamer ma phéoplastie qui va me prendre des mois et des mois parce que c'est sur plusieurs opérations lourdes.
La phalloplastie, c'est la reconstitution
Oui, du phallus. Enfin, du coup, ou d'un pénis, ouais. C'est pas tout le monde qui veut faire une phalloplastie comme moi, parce que c'est quand même une opération ultra lourde qui a pas mal de risques. C'est pas un choix, en fait. Enfin, c'est vraiment une nécessité pour moi de le faire.
On va faire un petit point avec votre papa.
Ouais.
Allez.
Vous voulez bien venir pour nous joindre?
Alors, comment allez-vous?
Ah ben moi ça va.
Non. Et avec... Alors, comment ça se passe?
Moi, je pense que ça va pas mal. Je pense que sa priorité actuellement, c'est les études. En tout cas, c'est ce qui nous laisse paraître. On voit très studieux. Et puis, bien sûr, on garde l'œil sur le guidon au niveau des prochaines étapes. Je pense qu'on va commencer les dossiers prochainement, monsieur docteur, n'est-ce pas?
Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année.
Vous aussi.
Ah, et on se retrouve
l'année prochaine.
Et oui.
Très bien.
C'est bon?
Oui.
Bon, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Hein,
merci. En France, le nombre de demandes de consultation pour dysphorie de genre, comme celle-ci, a beaucoup augmenté. Et ce n'est pas une exception, en Suède aussi, où la prise en charge des mineurs est d'ailleurs débattue aujourd'hui parce qu'il y a là-bas quelques témoignages qui émergent de jeunes qui regrettent leur transition. C'est là que nous allons maintenant, en Suède, parce que ce pays, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un État pionnier, le premier à avoir reconnu dès 1972 les droits des personnes trans.
19 ans, jour pour jour, après avoir sorti l'homosexualité de la liste des maladies mentales,
France 3, journal télévisé,
la France fait de même avec la transsexualité.
2009.
Les transsexuels seraient 60 000 d'après leurs associations en France. Pour elles, cette annonce symbolique répond à une revendication de longue date.
À Lingsas, petite ville enneigée de Suède, on a rendez-vous avec un jeune homme. Il a 37 ans, il s'appelle Johan.
Et il y a quelques années, il a voulu devenir une fille et puis il est revenu en arrière. Aujourd'hui, cet homme, qui est recouvert de tatouages, qui est barbu, qui a des piercings sur le visage, il en veut beaucoup au système de santé suédois qu'il estime responsable de ce qu'il a vécu depuis plusieurs années.
Hi.
Julie.
Yoa.
Jeremy.
Hi. Nice to meet you.
Nice to meet you.
So it's Johan or Johan?
Johan.
Johan.
Okay. Had the feeling of being born in the wrong body.
J'ai toujours eu le sentiment d'être né dans le mauvais corps, en quelque sorte.
I always felt that something was wrong.
Et j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez moi.
I thought that I was transgender.
Je pensais que j'étais transgenre,
go through transition,
que j'avais besoin d'entamer une transition.
Be happy and feel
pour,
alive.
Vous savez, être heureux et me sentir vivant. J'ai fait mon coming out en 2014. Je suis passé par un processus d'évaluation dans une clinique du genre pendant environ 2 ans. Et puis on a commencé les étapes vers ma transition.
Medical transition, hormone replacement therapy,
avec prise d'hormones. Et des choses comme ça.
I didn't see any other way.
Je ne voyais pas d'autre solution.
And I believe now in retrospect when I look at it.
Et je crois quand j'y repense que c'était à cause de souvenirs traumatiques.
The trauma memories. Transitioning was a way to escape.
La transition était un moyen de m'échapper.
But it was also some kind of passive.
Mais c'était aussi une sorte de suicide passif.
It was also some form.
C'était aussi une forme d'automutilation de faire ça à mon corps.
But it was all unconscious.
Mais tout ça c'était inconscient.
Vous êtes né donc garçon?
Yeah, I was born a boy into that
Oui, je suis né garçon dans une famille dysfonctionnelle. Mon père était très agressif et abusif envers ma mère, moi-même et mes frères et sœurs.
And there was a lot of alcohol, you know.
Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de violence physique et émotionnelle.
Physical and emotional, and there was a lot of neglect.
Et beaucoup de négligence en plus des abus sexuels quand j'étais enfant.
So I have a very fragmented memory of my childhood.
J'ai un souvenir très fragmenté de mon enfance.
And I connected all the dots.
Puis j'ai recollé tous les morceaux du puzzle.
And I realized that.
Et j'ai réalisé que la dysphorie de genre, ou ce sentiment que j'aurais dû être une fille, était en fait une façon d'échapper au corps qui m'avait trahi quand j'étais enfant, ou au garçon que je n'ai jamais pu être quand j'étais enfant. Les médecins n'auraient jamais dû me permettre de me lancer là-dedans. Vous savez, quand mon évaluation a été bouclé après 2 ans, j'ai interrompu la transition au moins 6 fois. La clinique ne l'a même pas remarqué. Et ils m'ont permis de continuer. Je sais que je suis responsable de ma vie. Je ne dis pas que je ne le suis pas. Mais quand vous souffrez de flashbacks traumatiques, votre esprit est confus. Il connaissait mon enfance. Ça aurait dû être un drapeau rouge pour l'équipe de la clinique. Laissez-moi le dire ainsi. Dans le meilleur des mondes, ils auraient dû me dire, faites-vous suivre pendant 5 ans. Quand vous aurez résolu ce traumatisme, quand vous serez guéri, si vous ressentez toujours ce que vous ressentez actuellement, alors vous pourrez revenir, mais on ne vous laissera pas faire ça maintenant. C'est ce que j'aurais aimé qu'ils me disent, parce que maintenant la transition est un traumatisme de plus que je n'ai toujours pas digéré.
So yeah, I have the effects of.
Je vois les effets de 2 ans d'hormonothérapie.
In my case, it's like breast growth.
Mes seins ont poussé et ça ne peut pas s'effacer.
Today I have contact with other detransitioners.
Aujourd'hui, je suis en contact avec d'autres détransitionneurs.
Feeling that we have been in some sort of experiment.
Nous avons l'impression que nous avons subi une sorte d'expérimentation parce que le système de santé n'a pas de données.
Effects, nothing.
Ils ne connaissent pas les impacts à long terme, rien.
I see a great issue with the fact that children are.
Je pense que le fait que les enfants soient autorisés à entamer ce processus, c'est un grand problème. La société a besoin de prendre du recul, faire une pause. Observer la Suède. Voir comment ça s'est passé.
Yeah.
Des psychiatries, donc les portes elles sont sécurisées.
But we are a bit early.
En Suède, il y a eu une très très forte augmentation des diagnostics de dysphorie de genre depuis à peu près 10 ans. On est sur plus de 1000%, même si évidemment le nombre de personnes concernées, il est très faible. L'un des hommes qui travaille sur ce sujet et qui documente en fait la situation des personnes concernées, il s'appelle Michael London. Il est chef du département de psychiatrie et de neurochimie à l'université de Göteborg.
Hi there.
Hello.
You're looking for me, I suppose.
Yes.
Hi. Very welcome.
Nice to meet you.
I'm Julie. Please have a seat inside there. Something happened. It was some alarm who went off. So that's why all doors are closed. But
okay.
I will be with you in a few minutes. So my name is
Mon nom est Michael Landen.
I'm a professor in
Je suis professeur de psychiatrie à l'université de Göteborg. J'ai participé à un groupe d'experts qui a examiné les données que nous avons sur le traitement hormonal des jeunes souffrant de dysphorie de genre en Suède.
Pourquoi vous avez été amené à travailler sur cette étude à la demande du gouvernement?
This used to be a very rare phenomenon.
Avant, il s'agissait d'un phénomène très rare. Nous avions un, deux, peut-être trois enfants par an qui demandaient des soins pour une dysphorie de genre en Suède. Ça, c'était autour de l'an 2000.
So it was a very unusual phenomenon.
Donc, c'était un phénomène très inhabituel. Mais quelque chose s'est produit autour de 2010. La prévalence ou l'incidence a commencé à augmenter de manière assez spectaculaire. Et les statistiques sur le genre concerné ont aussi changé. Avant, c'était surtout les garçons qui voulaient devenir des filles. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de filles qui s'identifient comme des garçons.
Et donc on est passé de 1, 2, 3 enfants par an à combien ?
Je ne connais pas les chiffres exacts, mais j'ai calculé que l'augmentation était de 2300% ou quelque chose comme ça. Ça semble énorme parce qu'en fait, le nombre à la base était très faible, mais c'est plusieurs centaines d'enfants par an. Pourquoi cette augmentation s'est-elle produite? Il y a différentes opinions. L'un des arguments, c'est qu'en fait, cela a toujours été aussi commun. Et que ce qui s'est passé, c'est que la société a changé, qu'elle est plus tolérante aujourd'hui, et qu'il y a aussi des traitements disponibles. Il est donc tout à fait naturel que ces enfants cherchent à se faire soigner. Un autre argument est qu'il s'agit en quelque sorte d'une contagion sociale. Les enfants découvrent cela sur les réseaux sociaux. Ils voient des photos d'enfants très heureux qui ont transitionné et qui expliquent que c'était la bonne chose à faire. Alors ils se disent, ça pourrait être aussi mon problème.
I also want to change.
Je veux aussi changer de sexe.
Hey, salut à toi, moi c'est CrazyDan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des remboursements de la mammectomie. Il y a beaucoup de questions autour de ça qui me reviennent très souvent, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Aujourd'hui on va parler du CEC, donc si vous savez pas ce que c'est le CEC, c'est le changement d'état civil. Voilà, tu vois le petit F qui te fait chier, enfin je suppose parce que je m'adresse plutôt à des personnes qui sont FTM, donc female to male. Mais ça peut très bien marcher aussi pour les MTF, donc male to female. Salut tout le monde, je vais parler de comment obtenir la testostérone.
My personal opinion...
À mon avis, le fait que les traitements soient plus accessibles et que la société les accepte davantage explique en partie ce phénomène. Mais je ne pense pas que cela puisse expliquer une telle augmentation des cas. Il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'un phénomène social. Mais je n'ai aucune preuve à l'appui. C'est juste mon opinion personnelle.
Est-ce que ce sont des enfants qui vont bien quand ils commencent à consulter pour rentrer dans un processus ?
Ce qu'on a constaté ici en Suède et ailleurs, c'est que ces enfants ont généralement d'autres problèmes. Des troubles neuropsychiatriques, comme l'autisme, des troubles de l'attention ou alimentaires. Pas 100% d'entre eux, bien sûr. Mais il y a une surreprésentation très nette d'enfants avec d'autres problèmes. Les enfants n'ont pas un système cérébral complètement mature. Pas avant 25 ans. Ils ont une capacité limitée pour réfléchir sur ces sujets.
En tant que reporter pour le magazine d'investigation Ultra Granting, j'ai passé en revue les traitements. En 2019, j'ai rencontré Mika qui a fait une transition de femme à homme puis a regretté. Elle a réalisé que le système de santé propose trop facilement des traitements de correction du genre. J'avais l'impression d'être un cobaye. Le système de santé ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il n'y a aucune science derrière tout ça. Ils sont en train de faire des tests sur une jeune génération qui a la vie devant soi.
En Suède, c'est un documentaire à charge diffusé à la télévision qui a relancé le débat sur la transidentité chez les plus jeunes. Dans l'un des volets de cette enquête, un hôpital de Stockholm est notamment visé, le Karolinska, l'un des 6 centres qui prennent en charge les enfants. Il est accusé notamment de ne pas avoir pris suffisamment de précautions dans les traitements hormonaux qui étaient prescrits. Face à la polémique, le Karolinska prend une décision qui va faire grand bruit dans le pays.
Les traitements hormonaux des enfants avec une dysphorie de genre ont été stoppés après une décision qui a été prise par l'hôpital Karolinska. La raison est qu'il peut y avoir des risques pour le patient et qu'il n'y a pas de preuves scientifiques permettant d'évaluer le rapport bénéfice-risque.
Première conséquence de cette décision du Karolinska, l'accès aux soins devient plus difficile et plus long, ce que dénoncent les associations trans comme celle d'Anne-Christine Ruth, porte-parole de Transamance, la plus importante de Suède. C'est à ses côtés que l'on retrouve Julie Pietri et Jérémy Thuil.
Le climat est beaucoup plus tendu qu'avant. Bien sûr, nous sommes inquiets. C'est toute l'idée d'aider des jeunes à vivre en accord avec leur genre ressenti qui est remise en question par tant de gens.
And it started with a documentary.
Et ça a commencé avec ce documentaire diffusé sur la télévision publique suédoise qui enquêtait sur les soins pour les personnes transgenres. Ils ont trouvé le cas d'un jeune qui a été absolument maltraité. On lui avait prescrit ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Ce traitement doit durer 2 ans maximum. Dans ce cas-là, ça a duré 4 ou 5 ans, je pense. Et l'enfant a souffert de sérieux effets secondaires. Mais la conséquence de cette enquête, c'est que l'hôpital Karolinska de Stockholm a décidé que ce traitement ne serait plus donné à aucun nouveau patient. C'est vraiment très curieux, parce que bien sûr, dans tous les domaines de la santé, il y a des mauvais traitements. Mais vous ne suspendez pas tous les soins parce qu'une personne a été mal prise en charge. Et il semble que maintenant, tout le monde peut se proclamer expert de la question. On dit, est-ce qu'un jeune peut vraiment savoir qu'il a un autre genre que celui qui lui a été assigné à la naissance? On entend surtout les voix critiques. Et on voit que tout cela affecte les soins trans dans leur ensemble. Nous avons maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans d'attente avant la première visite médicale. Et il y a un problème de recrutement de nouveaux personnels. Peu de gens veulent travailler dans un domaine aussi contesté. Je suis moi-même passé par là, mais j'avais alors presque 60 ans. Et je sais que le temps d'attente est terrible. Quand j'avais 12 ou 13 ans, au moment de la puberté, j'ai réalisé que je ne voulais pas être un garçon. Mais c'était au milieu des années 60, je pensais que j'étais seule au monde. Il n'y avait rien sur ça, sur notre unique chaîne de télé. Nous n'avions pas d'ordinateur. Et ce que nous savons maintenant des trans, nous ne le savions pas à l'époque.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est un très belle femme, par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que as.
En Suède, il y a vraiment une grande différence, un grand écart entre les chercheurs qui travaillent sur la question depuis leur bureau, qui travaillent sur des études, et les médecins qui sont sur le terrain. Il y a 6 cliniques, 6 hôpitaux en Suède qui prennent en charge les enfants et les adolescents qui se lancent dans un processus de transition ou qui sont traités pour une dysphorie de genre. Et l'un de ces hôpitaux se situe à Lund, on est au sud-ouest de la Suède.
Hi.
Welcome.
Hello.
Welcome
to Lund.
And Jeremy.
Welcome. Thank
you. Mon nom est Attila Fazekas. Je suis médecin et directeur du département de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Lund. Et je suis le président de l'association des professionnels de santé suédois des soins transgenres.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui quand vous êtes face à un jeune, un enfant, un adolescent qui veut changer de sexe, qui veut devenir un garçon ou une fille?
Quand on lit une première fois les nouvelles recommandations, on a l'impression qu'elles sont assez restrictives.
You have to be careful,
parce qu'elles disent qu'il faut être prudent et qu'il faut mettre en place un projet de recherche pour chaque mineur qui reçoit par exemple un traitement hormonal. Mais si vous lisez plus attentivement, vous pouvez voir qu'il y a des exceptions. Par exemple, si le patient, les parents et les professionnels sont d'accord pour le traitement hormonal, ou d'abord les bloqueurs de puberté, alors on peut continuer, en tenant compte des risques. Mais vous savez, c'est toujours le cas. Ça ne fait pas une grande différence, en fait.
Est-ce que les erreurs sont possibles?
Oui, absolument. Dans tous les soins médicaux, il y a des risques que quelque chose se passe mal. Mais je pense que ce n'est absolument pas courant. Nous avons un processus d'évaluation long et minutieux pour prendre la décision de donner ou de ne pas donner un traitement à un homme, par exemple. J'ai confiance en nos méthodes. Vous savez, lorsque nous parlons de médicaments pour les enfants et les adolescents, nos collègues utilisent en fait des médicaments utilisés d'habitude par les adultes. Toute la documentation concerne les adultes. Il existe très peu de projets de recherche sur les enfants pour des raisons éthiques. Mais ils utilisent ces médicaments pour les enfants parce qu'ils ont besoin d'un traitement. Alors oui, c'est vrai que certains patients regrettent. Mais encore une chose, quand on parle de regrets, il est très important de savoir de combien de personnes on parle. Et vous savez, la Suède est le royaume des statistiques. Le Conseil national de la santé et des soins a des statistiques. Entre 2017 et cette année, ils ont enregistré un ou deux patients qui regrettent. Cette année, 13. Ce n'est pas un chiffre énorme. Même si nous devons prendre soin de ces patients aussi, bien sûr. Mais quand nous avons environ 1500 patients dans nos services,
in our services, you know, once again,
encore une fois, c'est un problème éthique de ne pas donner de soins à un si grand nombre si seulement quelques individus regrettent leur transition.
En France, avant qu'un mineur puisse accéder à un traitement, certains hôpitaux ont mis en place ce qu'ils appellent des réunions de concertation pluridisciplinaires. Chaque traitement hormonal, chaque ablation des seins y est discuté et débattu. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui inquiète Hypomonie, ce collectif de parents qui se dit apolitique, demande lui qu'aucun traitement hormonal ne soit autorisé pour les enfants et adolescents. Ni bloqueur de puberté, ni oestrogène, ni testostérone, rien avant l'âge de 25 ans. L'association organise régulièrement des groupes de parole auxquels a pu assister Julie Pietri. Dans la pièce, ce soir-là, Jeanne, encadrante, accueille Lucie, mère d'une jeune fille qui dit vouloir devenir un garçon. Les prénoms et la voix pour Lucie ont été modifiés.
Interception sur France Inter.
J'attendais devant la porte, j'attendais que quelqu'un m'ouvre. Bon ben voilà.
Bonjour.
Je t'en prie, entre.
Ah. Enchantée.
Enchantée.
On va être serré.
Jeanne et Lucie, vous faites toutes les deux partie de ce collectif de parents qui est Hypomonie. Alors, Hypomonie, c'est écrit sur votre site, je crois en grec, ça veut dire patience. Et le symbole, c'est une tortue.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure?
Qu'il faut prendre son temps. On sait très bien que parmi nos enfants, certains vont faire une transition plus ou moins complète et c'est pas une question. C'est juste que on sait que la prise d'hormones, on va en faire des patients à vie et on veut simplement qu'ils prennent leur temps parce que de manière très simple, on se dit que ça n'est peut-être pas entre l'âge de 15 et 18 ans ou même 20-25 ans qu'on prend les décisions les plus intelligentes de sa vie. Donc ce n'est pas une position de principe, c'est vraiment une position de protection.
Jeanne, vous animez donc dans le cadre de ce collectif des groupes de parole. Qu'est-ce qui revient comme type de témoignage?
On est 90 familles en tout, aujourd'hui. Il y a quand même une chose qui revient, c'est la soudaineté et la brutalité de l'annonce. Et beaucoup de nos filles, enfin les 80% de filles, en fait, ont fait un coming out homosexuel avant et qui a été pris un peu comme un non-événement dans toutes les familles, en tout cas.
Alors, Lucie, est-ce que vous pouvez raconter ce qui vous est arrivé à vous et à votre fille?
Eh bien, c'est exactement ce que vient de dire Jeanne, de manière soudaine, sans qu'on s'y attende. En fait, notre fille nous a annoncé donc qu'elle se sentait dans un corps de garçon et qu'elle voulait qu'on la considère comme un garçon. Voilà, on ne s'y attendait vraiment pas du tout.
Elle avait 13 ans à ce moment-là.
Elle avait 13 ans, ouais.
Elle vous a demandé de l'appeler comme un garçon?
Oui, elle nous a demandé, ouais. Et donc nous, on lui a dit, bah non, t'es notre fille, t'es une fille. On continuera de t'appeler par ton prénom de naissance. Mais elle n'est pas tant revenue à la charge que ça, en fait. En revanche, je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est d'avoir toléré qu'elle se genre au masculin. Non, la genre au féminin.
Alors, ça veut dire quoi, se genrer au masculin?
Eh bien, c'est que votre fille parle d'elle en disant « je suis beau » au lieu de dire « je suis belle ». « Je suis fort » au lieu de dire « je suis forte ». Et donc, quand elle me dit ça, je lui dis « bien sûr que tu es forte, ma fille ». C'est-à-dire que, du coup, on ne s'oppose pas. Mais voilà, on lui rappelle la réalité, qu'elle ne vive pas dans ses cosplays ou dans ses mangas, en fait. Mais on a été hyper bienveillants en lui disant non, en fait. Voilà, on lui a dit, écoute, tu continues ta psychothérapie et on verra ça plus tard, quand tu auras mûri, quand tu auras vécu un peu et que tu sauras un peu mieux qui tu es. Enfin, moi... je ne sais pas complètement qui je suis, hein. Qui sait qui il est exactement. On évolue dans la vie, d'autant plus à 13 ans. On ne fait pas des choix irréversibles à 13 ans comme ça.
Et Lucie, comment vous savez-vous que votre fille n'est pas trans?
Alors, j'en sais rien. Ce que je ressens, une jeune fille qui dit qu'elle n'aime pas son corps, elle ne se balade pas tout l'été en maillot de bain de pièces... et que je vois qu'il y a vraiment un changement d'attitude quand elle est seule avec nous, et quand elle est avec ses camarades. C'est-à-dire que tout l'été, elle a été donc en maillot de bain et en t-shirt, et elle se baladait sans soutien-gorge. Et dès qu'elle reprend l'école, eh bien, elle se plaque les seins. Mais en fait, tout son groupe de copains, et même au collège, ils étaient là-dedans, en fait. Hein. Ils étaient tous... En fait, c'est hyper fun d'être trans.
C'est hyper dur aussi, non ?
Ben non. Là, chez nos jeunes collégiens et lycéens, non.
Si on doit donner un portrait robot de la petite fille hypomonie, en fait, ou de la grande fille hypomonie, c'est vrai que ce sont souvent des gamines qui étaient assez studieuses, pas très sociales. Et le changement de prénom, parce que la plupart ont changé de prénom pendant qu'elles étaient au collège ou au lycée, en fait, leur a donné une nouvelle personnalité, les a rendues intéressantes. Je ne sais pas, mais ce qu'on pense connaître, même si on n'y connaît pas grand-chose, de la transidentité, souvent, c'est que c'est une question intime. Là, en fait, ce n'est pas une question intime. C'est une question qui est hurlée au monde entier et qui est hurlée sur les réseaux sociaux, et il y a un phénomène de groupe. Est-ce que c'est une mode ? Non. C'est un phénomène, c'est un passage. On pense quand même qu'il y a une contagion sociale. Et justement, l'accusation de transphobie arrive très très vite. Parce que dire non, c'est être transphobe. Le doute est transphobe. Et nous, on trouve que c'est... Nous, on trouve que c'est dangereux.
Moi, je le vis pas très bien, hein, le fait qu'Hypomonie soit vu comme un gros groupe de cathos fachos. Voilà, genre tous les gens qui me connaissent, ça les ferait beaucoup rire. Il n'y a pas de possibilité de débat, c'est ça qui est dangereux en fait. Laissons le temps à nos enfants d'explorer le pourquoi de leur mal-être et de leur ressenti.
En France aussi, bien sûr, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants, même jeunes, dans ce processus de transition. C'est le cas de Maryse, que nous allons rencontrer maintenant. Elle a accouché d'une fille, il y a 15 ans. Aujourd'hui, son enfant s'appelle Ruben, et il est pris en charge médicalement depuis l'âge de 9 ans.
Bonjour. Vous êtes arrivée à quelle heure à Tours ce matin ?
11h.
11h ?
Oui.
Vous avez été promenée ?
On s'est promenée, on a mangé,
on a pris notre temps. Bonjour.
Bonjour.
On n'entame pas en France un processus médical de manière facile non plus. Hein. Faut arrêter de dire que c'est d'une facilité inouïe. En l'occurrence, à 9 ans, Ruben me dit les choses. J'ai mis Ruben sous bloqueur. On a donné notre accord, son père et moi, pour qu'il soit sous bloqueur de puberté, pour bloquer son développement féminin. Parce que pour lui, c'était insupportable à vivre.
À quel âge, là ?
11 ans.
Il y avait déjà à 11 ans des signes...
Oui, j'avais commencé une puberté à 11 ans.
Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire quoi comme signe à l'époque ?
Ça voulait dire avoir ses règles, ça voulait dire développement de la poitrine, développement des hanches, enfin... Donc c'est vrai qu'au plus ça venait, et au plus ça s'approchait, et au plus c'était régulier, au moins ça allait. L'image du corps qu'on ne veut absolument pas, le dernier des corps qu'on veut, arrive.
Et du coup, après les bloqueurs, on passe à autre chose ?
La testo. Les hormones, ça va faire un an et quelques mois que je suis sous testostérone.
Alors ?
C'est bien, franchement. Moi, je suis content. Moi, je vis une vie incroyable depuis. J'ai enfin les changements de puberté que j'imagine depuis que j'ai quoi, 7-8 ans.
La voix, on l'entend ?
Ouais. Puis il y a eu plein de changements. Bon, il y a eu des changements un peu effets secondaires qui sont pas super agréables. L'acné, j'étais plus en colère, j'étais plus irrité, irritable. La question du poids, parce que quand on est sous testo, c'est un truc que j'ai pris... là, en un an et demi, j'ai pris 30 kilos. Mais 30 kilos parce que j'ai pris des épaules, parce que j'ai pris du dos aussi. Je me suis fort développé corporellement. J'ai grandi. Ma voix, elle a changé. Ma pilosité, ma peau, elle s'est épaissie. Enfin, tout change, tout.
À un moment donné, en tant que parent, on se dit, est-ce que pour éviter les bloqueurs, les opérations, un éventuel regret qui viendrait dans quelques années, je vais décider de dire à mon enfant « stop », le faire souffrir terriblement, rentrer en conflit et risque qu'il porte atteinte à sa vie, tout simplement, parce que son corps lui est insupportable. Moi, la décision, elle est vite prise. Elle a été, son père et moi, on n'a même pas cherché à comprendre en se disant, bon, là, il faut le sécuriser. Il faut, à un moment donné, lui permettre d'être et d'exister comme il l'est, comme il dit le ressentir. Et je l'aiderai, même si dans quelques années, il souhaite transitionner. J'aurai la même place que j'ai aujourd'hui, celle d'une mère qui est là pour aider, quoi. On va arrêter de dire que c'est une contagion sociale. C'est juste des jeunes qui, à un moment donné, osent dire qu'ils existent. Parce qu'on ne leur a pas donné la parole pendant des tas d'années.
L'un des médecins référents sur ce sujet en France, c'est Agnès Conda. Elle est psychiatre pour les enfants et les adolescents et elle travaille ici, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous y sommes parce que c'est ici qu'elle a ouvert, en 2013, une des premières consultations spécifiques sur le sujet, donc il y a à peu près 10 ans. Depuis, il y a environ 240 enfants et adolescents de 3 à 20 ans qui ont été suivis ici.
Les diapos.
Il y a certains parents aujourd'hui, et certains professionnels aussi d'ailleurs, qui s'interrogent sur ce qu'ils appellent une prise en charge systématique, trop rapide, de ces mineurs, une trajectoire qui les emmènerait vers les bloqueurs de puberté, puis les traitements hormonaux, puis la chirurgie. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, si vous voulez, moi, je ne me retrouve pas dans cette description et je ne retrouve pas la pratique de mes collègues ici. Il n'y a pas d'autoroute pour personne. C'est une pratique vraiment de la singularité du sujet. Enfin, surtout pas. L'expérience montre que de voir le jeune plus vite, finalement, ça ne va pas forcément dans le sens d'aller vers une transition. On a des jeunes qu'on a vus deux fois et puis qu'on n'a pas revus parce que en deux fois, ils ou elles se sont rendus compte que c'était pas ça leur question, finalement. Pour ce qui est des bloqueurs de puberté, les fameux bloqueurs de puberté, en fait, il n'y a que 11% des jeunes qu'on a reçus qui en ont reçu. Et l'âge moyen, vous voyez, c'était, disons, 13 ans, 10 mois, à peu près. C'est pas des enfants prépubères. Alors, on donne pas de bloqueurs à des enfants. Il n'y a pas de traitement hormonal en France qui soit donné à des enfants. Aussi parce qu'on sait que la plupart des enfants qui expriment une question d'identité de genre dans l'enfance, avant le début de la puberté, vont évoluer finalement dans le sens d'être bien avec leur identité de genre de naissance et vont même parfois complètement oublier qu'un jour ils se sont posés ces questions. On n'est pas non plus dans la proposition, si vous voulez. On dit par exemple un jeune qu'on voit, admettons, je sais pas moi, un enfant de 8 ans qui vient et qui est né garçon et qui se sent fille. On ne va pas lui dire si cette question n'est pas amenée par le jeune ni par la famille. On ne va pas lui dire, ah bah, tu sais, si tu veux, tu peux faire une transition sociale à l'école et puis après on pourra te donner. Non, c'est jamais ça. On essaye d'être à l'écoute de la demande spécifique de ce jeune et de cette famille et de voir par contre, en fonction ensuite de ce que nous on a lu dans la littérature, des recommandations internationales, toutes les guidelines des sociétés savantes, parce qu'il y en a quand même des quantités, et de ce jeune-là précisément, ce qu'on peut proposer. Et en matière de chirurgie, donc la chirurgie en France, avant 18 ans, c'est uniquement des torsoplasties. Ça peut pas être des chirurgies génitales. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction là encore, hein. C'est-à-dire que sur le plan de la réglementation, si finalement un parent et son enfant décidaient de demander une hystérectomie à 17 ans, il n'y a pas de loi qui l'empêche. Mais les médecins ne le font pas. le rôle du pédopsie, c'est de donner une information sur toutes les possibilités, mais aussi sur les effets secondaires de ces traitements, sur tout ce qui peut être irréversible, sur tout ce qu'on ne sait pas non plus encore, parce qu'il y a des choses qu'on dit il n'y a pas d'effet, mais en fait on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas cherché. Mais comme la quasi-totalité des médicaments en médecine, quand même. Si vous voulez, ce qui compte, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas du tout d'effet. Et là, le rapport bénéfice-risque, il y a quand même un grand nombre d'études qui montrent que d'accompagner ces jeunes qui le demandent, et ils ne le demandent pas tous, avec des hormones et avec des bloqueurs de puberté, ça diminue le risque suicidaire, ça diminue en tout cas le risque de tentative de suicide, et ça diminue l'état anxio-dépressif, ça diminue le décrochage scolaire.
Il n'y a pas un praticien qui décide seul. Jamais. Il y a toujours des concertations.
Oui, jamais, jamais. Mais moi, je vous le dis, je ne me sentirais pas capable de décider seul.
Née dans le mauvais corps, la délicate prise en charge des ados trans, un reportage de Julie Pietri avec une prise de son de Frédéric Kérou et Jérémy Tuile. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Antoine Viossa. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur le site de France Inter.